Hello les gens, c'est Ludic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lore d'Elden Ring aujourd'hui, dans laquelle nous allons principalement parler de Rani et de la famille Caria, mais vous allez le voir, on va aussi évoquer pas mal d'autres sujets dans cette vidéo. Je précise qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des choses dans cette vidéo qui aille un petit peu en contradiction avec des choses que j'ai pu dire dans des vidéos précédentes, et notamment la première vidéo sur le lore d'Elden Ring. Ne soyez pas étonné de ça, c'est normal, ma pensée elle évolue, on apprend de plus en plus de choses sur le lore, et ce que je pensais il y a 2 mois n'est pas forcément ce que je pense aujourd'hui, donc considérez cette vidéo comme une mise à jour en quelque sorte de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant sur le lore d'Elden Ring. J'espère que ça va vous plaire. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, ben, pensez à vous abonner et activer la cloche. La prochaine vidéo lore d'Elden Ring sera très certainement sur Malenia et la putréfaction. Je vous ai tout dit, c'est parti pour l'épisode 4 du lore d'Elden Ring. Comme vous le savez certainement déjà, notre histoire commence avec l'apparition de l'Arbre-Monde et la montée au pouvoir de Marika. Mais avant cela, existait-il d'autres peuples, d'autres races, ou alors le monde n'était-il que néant? La réponse est oui, il y avait bien quelque chose avant l'Arbre-Monde, notamment un lieu du nom de Creuset Primordial, sorte d'ancêtre ou de racine de l'arbre, où naguère toutes les races furent entremêlées. C'est d'ailleurs ce lieu que protégeaient à la base les fameux chevaliers du Creuset, que vous croisez au cours de votre aventure et qui s'avère extrêmement puissant. À cette époque, de nombreuses races peuplaient déjà le monde. Les humains bien sûr, les géants, les dragons, qui régnaient en maître sur l'entre-terre, ou encore les disciples ancestraux, une race de bêtes cornues vouant un culte à des cerfs ancestraux royaux à l'apparence éthérée et magique. Parmi les humains, certains vivaient à cette époque le long de rivières étoilées, comme la Siofra ou l'Incel, dans des villes éternelles du nom de Noxtella et Nocron. Les Nocriens tiraient alors leur pouvoir d'une magie basée sur le mouvement des étoiles et de la lune noire, qui était comme une religion pour eux, leur permettant d'accomplir de véritables prouesses. La magie des Nocriens était sans limite, ils pouvaient enchanter des immenses boulets et les faire se déplacer, créer des mimiques imitant leur apparence et lançant des éclairs. Certaines guerrières très puissantes, du nom de Noctelam, se battaient même à l'arc à dos de fourmis qu'elles apprivoisaient. C'est d'ailleurs de cette magie qu'est tirée la sorcellerie de Celia, encore exercée en Caelid. On peut d'après moi émettre la théorie selon laquelle les Nocriens seraient en réalité un peuple composé uniquement de femmes, étant donné qu'il n'est fait mention d'hommes à aucun moment dans leur mythologie. On retrouve d'ailleurs le même phénomène avec les Numènes, la race d'origine de Marika, qui serait uniquement composée de femmes. Ce que l'on peut prendre pour acquis, c'est que Noxtella et Nocron étaient tous deux dirigés par 2 reines géantes en tout point identiques, ce qui expliquerait pourquoi ces villes sont qualifiées de villes éternelles jumelles. Se pourrait-il qu'à l'époque, les humains et les géants entretenaient des rapports cordiaux et respectueux ? D'après l'épée de la nuit ardente, on apprend qu'on ne parlait pas de sorciers, mais d'astrologues en ce temps-là, et que ces astrologues s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes, où ils considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Un objet relativement anodin, du nom de coquille vide de larmes d'argent, suggère alors que les Nocriens se servaient des mimiques, ces fameux blobs noirs, pour tenter de faire renaître un seigneur ou une dame. Cela nous laisse à penser que l'une des reines géantes pourrait être la copie de l'autre, et que depuis leur disparition, les Nocriens tentent en vain de les faire renaître. Ce processus de résurrection auquel se prêtent les Nocriens est clairement à rapprocher du processus de renaissance exercé par Rhenala sur ses étudiants de l'académie, ce qui tombe sous le sens quand on sait que l'origine de la famille Caria est clairement à aller chercher dans ces villes éternelles. C'est également à cette période, selon moi, que furent créés les albinoriques de première génération, des êtres humanoïdes magiques voués à servir les humains, mais étant dotés d'une espérance de vie très courte. Ce sont d'ailleurs des cadavres de ces albinoriques que vous trouverez au pied de la reine de Noxtella. Ce qui nous amène à poser la question de leur origine. Serait-ce possible que les albinoriques aient été créés sur la base d'un mélange d'ADN entre les géants et les humains? Cela expliquerait leur grande taille pour la plupart, et leur difficulté à se tenir debout. Théorie plus ambitieuse encore, se pourrait-il que les reines soient des albinoriques géantes créées de toutes pièces par les Nocriens et qu'ils se seraient mis à vénérer jusqu'à leur vouer un culte? C'est une possibilité que l'on peut envisager. Quoi qu'il en soit, aussi puissante que fut la magie des Nocriens, elle ne leur permit pas de tenir tête aux dragons, même après la création des soldats draconides, des créatures imparfaites qui ne tenaient pas la comparaison avec leur glorieux modèle. Mais ce n'est pas le seul danger auquel les Nocriens devaient faire face. Leur proximité avec le cosmos les rendait vulnérables à de nombreuses chutes de météorites, et à toutes les créatures qu'elles laissaient dans leur sillage. Les seigneurs d'Onyx, encore appelés seigneurs d'Albâtre, ou les rejetons du vide comme Astel, qui terrorisa et décima la ville de Noxtella. Ces chutes de météorites n'eurent pas qu'un effet négatif, puisqu'elles permirent tout de même aux humains de maîtriser à long terme la magie gravitationnelle, qui sera notamment étudiée par Radan auprès d'un seigneur d'Onyx lors de ses jeunes années à l'académie. Signe du destin ou pas, alors que les humains semblent acculés, c'est au même moment que surgit du creuset primordial l'arbre-monde, et avec lui la grâce qui en découla. Certains humains, et parmi eux les Numènes, la race de Marika, y voient un moyen de s'élever et d'acquérir un immense pouvoir, ce qui permettra à plus long terme à Marika de prendre la tête des humains, de créer l'Ordre d'Or et de mener des guerres d'envergure contre les géants et les dragons. Suite à la création de l'Ordre d'Or, la magie et religion liées aux étoiles va petit à petit être abandonnée, désertée et peu à peu presque considérée comme hérétique. Les cités éternelles et les rivières étoilées seront alors enfouies sous terre pour se protéger des rejetons du vide, mais aussi et surtout pour tenter de les effacer de l'histoire. Il y a bien longtemps, les Nocriens s'attirèrent les foudres de la volonté suprême et furent bannis dans les tréfonds. De nos jours, ils vivent sous un ciel nocturne factice, dans l'attente éternelle de leur souverain, de la venue de l'âge des étoiles et du seigneur de la nuit. Vous l'aurez donc compris, les ciels étoilés que vous voyez au cours de votre exploration de la Siofra ou de l'Incel ne sont en réalité que des illusions, des reproductions destinées à garder sous terre ces villes éternelles et les Nocriens. Cependant, Marika, qui a conscience de la puissance de cette magie et de son utilité, ne souhaite pas la voir disparaître complètement. C'est dans cette optique que fut créée l'Académie de Raya Lucaria, destinée à accueillir les rares héritiers de cette magie et à former les nouveaux et jeunes sorciers. Bonne décision puisque l'Académie prêtera main forte à Marika et se battra à ses côtés lors des guerres contre les géants et les dragons. À cette époque, on peut encore considérer l'activité de l'Académie comme assez florissante. La sorcellerie de Pierre d'Éclat prédomine et il existe deux courants de magie en son sein, le cursus d'Olivinus, représenté par Maître Lussat, qui s'attelle à l'étude des météores, et le cursus de Carolos, incarné par Azur le sorcier originel, qui traite de l'étude des comètes. Les sorciers suffisamment puissants pour appartenir aux deux courants sont appelés sorciers bicéphales, et portent un masque en attestant. A contrario, les sorciers préférant n'appartenir à aucun courant, et exercer leur magie en marge de l'académie, sont affublés du masque de Hierodas. Je pense que c'est également au même moment qu'ont été créés les albinoriques de deuxième génération, bien différents de leurs prédécesseurs, car délaissant leur apparence humanoïde pour une forme de plus petite taille et une tête de crapaud, plus fonctionnelle que leurs aînés. D'autres sorciers très puissants faisaient en cette période partie de l'académie. On peut parler de Sélène, une mage particulièrement talentueuse mais radicale, ce qui lui vaudra d'être exclue de l'académie. On peut également mentionner Jiren, un nomade hôte de la famille Caria, qui finira par devenir chasseur de sorcières et rentrera au service de Radan lors de son départ de l'académie. La famille Caria, justement, parlons-en, une frange séparatiste de l'académie pour sa magie liée à la lune, des héritiers des Nocriens qui ont été abandonnés par l'académie et purement considérés comme hérétiques après l'apparition de l'arbre-monde. Des tensions existaient donc entre la famille Caria et l'académie, et aussi sûr que la lune et les étoiles finiront un jour par se séparer, une guerre finit par éclater entre les deux factions. L'académie envoya alors ses chevaliers du coucou pour tenter de terrasser les Carias, mais ils subirent une défaite cuisante face à leur magie et à la puissance de leur reine Rhenala. Ce fut la fin pour Coucou et ses chevaliers, et cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de Première Guerre de Liurnia. C'est à ce moment-là que Rhenala prit la tête de l'académie et y rétablit une magie basée sur la lune. Maître Lussat et Azur furent expulsés, et Marika, flairant le danger arrivé, décida d'entrer en guerre contre Rhenala et l'académie. Il s'agit de la Deuxième Guerre de Liurnia. C'est à cette époque que commença à apparaître Radagon, la version masculine de Marika, considérée à cette époque comme un héros de guerre. Guerre qui ne prendra pas fin suite au combat, mais grâce à la relation amoureuse qui va se nouer entre Radagon et Rhenala. Une ère de paix durable va alors s'installer entre l'Ordre d'Or et l'Académie. C'est à peu près au même moment que Godfrey, lassé de tous ses combats, sera quitté par la grâce, excommunié par Marika, et prendra la tête des sans-éclats. Rhenala et Radagon auront alors par la suite trois enfants, Rani, Radan et Rykard. J'en ai déjà un peu parlé, Radan va vivre ses jeunes années à l'académie et y apprendre la magie gravitationnelle auprès d'un seigneur d'Onyx et de son père Radagon. Il finira par la quitter pour se rendre en Kaelid, prendra Jiren à son service et à plus long terme stoppera le mouvement des étoiles pour empêcher une météorite de s'écraser et de dévoiler la cité éternelle d'Onokron. Rykard, de son côté, va rapidement prendre la tête du manoir du volcan et blasphémer en s'unissant avec un serpent dans l'optique de dévorer les autres demi-dieux. Il ne reste donc que Rani, qui siège au manoir de Caria, protégé par l'esprit de Loretta, une ancienne chevaleresse supposément albinorique qui a depuis longtemps déserté la famille Caria pour se mettre au service de Malenia. Rani assiste impuissante à la déchéance de sa mère Rhenala, qui n'a pas supporté le retour de Radagon auprès de Marika. Radagon, pris de remords, laissera tout de même à Rhenala sa rune de renaissance, dont elle se sert pour faire renaître en boucle des étudiants de l'académie. C'est à peu près sur cette même période que Rani va devenir une empyréenne, l'élue de la volonté suprême pour succéder à Marika et s'emparer du cercle d'Elden. Certainement un moyen pour la volonté suprême de s'assurer que l'héritière des Nocriens ne suive pas sa destinée de rétablir l'âge des étoiles. Cela coïncide avec le moment où Marika a commencé à changer de personnalité, et après avoir passé des années à protéger son pouvoir et le cercle d'Elden, elle va se retourner contre lui et fomenter un complot contre sa version masculine pour briser le cycle. C'est également à ce moment que Marika va envoyer Yug le forgeron au bastion de la Table Ronde pour aider les sans-éclats à forger une âme capable de tuer un dieu. Il apparaît donc qu'à cette époque, Rani et Marika sont en réalité du même côté. Rani n'a que faire de sa condition d'empyréenne dont elle souhaite se séparer, et va donc chercher à s'emparer d'un fragment de la rune de mort auprès de Maliket. Tandis que Marika va créer et armer une faction de femmes assassins issues de sa propre race, les Numènes, chargée de fomenter un coup d'état contre les demi-dieux. Il s'agit de la Nuit des Couteaux Noirs. Avec leur chef Alecto à leur tête, les Couteaux Noirs vont parvenir à tuer Godwin, et en s'enfuyant de la ville capitale, Alecto assistera impuissante à la mort de sa propre fille, Tish. Alecto avait alors pour mission supplémentaire de tuer Rani, probablement sur ordre de Marika, chose qu'elle ne parviendra pas à faire puisque Rani tranchera sa propre chair d'empyréenne et parviendra à enfermer Alecto dans une geôle éternelle non loin de sa dernière demeure, certainement aidée par Blade et Iji. Comment Rani a-t-elle survécu à ces événements? Nous y reviendrons. Hantée par la mort de son propre fils Godwin, Marika va alors sombrer dans une profonde folie. Elle sera alors enfermée par la volonté suprême dans l'Arbre-Monde, les rênes du Cercle d'Elden étant laissées à Radagon. Revenons maintenant à Rani, à sa jeunesse et notamment aux personnes qui l'entouraient pendant ses premières années. Parmi ces personnes, on peut citer sa mentor qui l'a notamment initiée à la magie glaciaire, tout en la mettant en garde contre les dangers de la Lune Noire. On peut également citer des personnages comme Seluvis, Blade ou encore Iji, sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Mais étaient-ce là les seules personnes dans l'entourage de Rani? Il y a quelque chose qui a fortement attiré mon attention, et la vôtre je pense, en arrivant dans la zone de Rani. C'est le fait que cette zone se nomme les Trois Sœurs. Pourquoi les Trois Sœurs et qui sont-elles? Une analyse pragmatique serait de dire que ces trois sœurs sont tout simplement une référence au fait que ces trois tours sont des tours jumelles, et qu'il n'y a pas à chercher autre chose. Ou alors on peut aller un peu plus loin dans la théorie et l'interprétation, et supposer que Rani a véritablement eu deux sœurs. Dans ce cas, qui sont ces deux sœurs? L'une d'elles pourrait être Rena, du nom de la tour se trouvant à côté de celle de Rani. Mais la troisième tour se nomme la tour de Seluvis, ce qui semble contredire cette théorie. Sauf que, à la fin de la quête de Rani, lorsque vous arrivez dans la zone de la cathédrale de Manus Céles, se trouve une dernière tour secrète du nom de tour de Shelona, dans laquelle vous trouvez l'un des sorts les plus puissants de Rani. De plus, si vous progressez un peu plus haut dans la zone, vous trouverez trois mausolées renfermant chacun une statue de jeune fille, ce mausolée étant protégé par un loup de Radagon, ce qui tend à prouver que Shelona, Rena et Rani sont bel et bien trois sœurs. Mais dans ce cas, que sont-elles devenues? Se pourrait-il que leur récit nous soit raconté par le biais métaphorique d'une autre histoire? C'est maintenant qu'intervient ma théorie la plus ambitieuse jusqu'à maintenant, la théorie des méduses. Ne vous êtes-vous pas demandé ce que pouvaient bien être ces méduses que vous croisez un peu partout en Entre-Terres? Il existe un endroit dans la cime des géants, du nom de ruines de l'Observatoire Céleste, qui m'ont immédiatement mis la puce à l'oreille et évidemment fait penser à Rani. Vous y croisez une méduse seule devant les ruines, dont je vous laisse écouter les quelques mots.
You promised me when we turn 14, we go to see the stars. I've been waiting ever so long, forever and ever it seems.
Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, si vous invoquez une méduse à ses côtés, invocation que vous récupérez en début de jeu, vous allez ouvrir le passage dans les ruines et récupérer l'objet suivant, la lame de pierre d'éclat primordiale. Il s'avère qu'en réalité, ces deux méduses sont d'anciennes sorcières, deux sœurs du nom de Aurélia et Auréliette, qui auraient tenté d'ouvrir leur cœur en deux et de transférer leur âme dans une pierre d'éclat primordiale, procédé qui aurait alors échoué et les aurait transformés en méduses. C'est d'ailleurs le même procédé qu'a utilisé la sorcière Sélène pour transférer son âme dans deux corps différents. Si vous poursuivez en contrebas de ces ruines, vous trouverez également les tombes de ces deux sœurs. Se pourrait-il alors que les méduses soient en vérité les véhicules des âmes d'anciens sorciers ou sorcières? C'est alors que l'ultime révélation m'est apparue. Regardez bien ces deux images mises côte à côte. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un mimétisme frappant entre cette méduse et l'apparence de Rani? Son chapeau, ses cheveux, sa couleur de peau bleutée, tout laisse à penser que Rani pourrait avoir un lien avec les méduses. Vous voyez où je veux en venir? Les trois sœurs, Aurélia et Auréliette, qui à l'âge de 14 ans voulaient contempler les étoiles. Rani qui souhaite justement rétablir l'âge des étoiles. Tout me laisse à penser que Aurélia et Auréliette étaient ces fameuses sœurs de Rani, Shelona et Rena. Le procédé de la lame de pierre d'éclat, qui a coûté la vie à Rena et Shelona, serait alors le même procédé que celui qui a permis à Rani de ne pas mourir lors de la nuit des couteaux noirs, et de transférer son âme dans une poupée miniature. L'apparence et les actions de Rani seraient donc en quelque sorte un hommage, une promesse faite à ses sœurs qu'elle a perdues. J'en conviens, c'est une théorie assez loufoque et qui repose sur beaucoup de suppositions, mais je trouve qu'elle tient quand même la route, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Revenons à l'entourage de Rani et à un personnage plus qu'important, je veux bien évidemment parler de Blade. Blade est à Rani ce que Malikette est à Marika, une ombre funeste, une personne choisie par la volonté suprême, une assurance que son élu restera sur le bon chemin, le destin qu'elle lui a défini. Mais on peut alors s'interroger sur l'origine de Blade. Qui est-il et comment est-il né? Il nous est présenté par Iji comme ayant été adopté par Renala durant les jeunes années de Rani. Mais se pourrait-il qu'il y ait autre chose derrière cela? Ma théorie serait qu'en réalité, Blade soit un enfant illégitime conçu entre Renala et le loup sacré de Radagon, ce qui expliquerait son apparence mi-homme, mi-loup, et ferait également de lui le demi-frère de Rani, au même titre que Maliket est le demi-frère de Marika. Cela expliquerait aussi pourquoi Seluvis utilise le terme de bâtard lorsqu'il évoque Blade. Cela nous en dit alors un peu plus sur l'origine des ombres funestes, qui pourraient en vérité ne pas être créées de toutes pièces, mais être transformées en tant que telles par la volonté suprême à partir d'engeances illégitimes des parents d'Empyréens. Quoi qu'il en soit, si vous poursuivez la quête de Rani et aidez Blade à trouver la ville de Nokron, vous finirez par affronter son ombre funeste lorsque vous vous rapprocherez du corps véritable de Rani. Une fois ce dernier vaincu, vous accéderez à la cathédrale de Manu Céles et pourrez vous lier à Rani via l'anneau de la Lune Noire. N'ayant plus aucun rôle à jouer pour protéger Rani, Blade plongera alors dans une profonde folie et vous pourrez mettre fin à son calvaire devant la tour de Rani. Il est intéressant de noter qu'autour de lui se trouvent des assassins des couteaux noirs, certainement venus pour le tuer et tenter de venger Alecto. Autre personnage de l'entourage de Rani, Iji le forgeron de la famille royale de Caria. Au service de cette famille depuis toujours, Iji était déjà présent lors des jeunes années de la princesse Rani et du semi-loup Blade, ce qui l'a amené à développer avec ce dernier une amitié plus que fraternelle qui persiste encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs Iji qui vous présente Blade comme étant le frère adoptif de Rani, recueilli par Renala. C'est également lui qui vous expliquera que Jiren était en réalité chargé de tuer Selene après son expulsion de l'académie, sa mission ayant été mise en pause lorsqu'il entra au service de Radahn. Il est aussi important de noter que Iji porte un homme miroir nocrien, porté par les individus coupables de haute trahison et qui empêche l'intervention de la volonté suprême et des doigts qui la servent. Iji est donc un descendant direct de la race des Nocriens, ce qui confirme que ce peuple était à la fois composé d'humains et de géants. Iji a sûrement tenté de trahir les Nocriens en se rapprochant de la volonté suprême, ce qui explique pourquoi il porte ce homme. Vous pourrez retourner voir Iji après la fin de la quête de Rani, attristé par la mort de son ami Blade, mais conscient du destin que sa maîtresse doit accomplir. Si vous retournez le voir une dernière fois, vous le trouverez mort entouré d'assassins des couteaux noirs, les mêmes qui ont tenté de tuer Blade pour venger Alecto. Dernier personnage pivot autour de Rani, c'est Luvis le sorcier, que je soupçonne être un ancien astrologue nocrien. Proche du bastion de la table ronde, il fut un rival de Gideon l'omniscient et proche de Dolores la flèche silencieuse. Seluvis est passé maître dans un art magique tout particulier qui consiste à transformer les gens en pantins invocables et utilisables en combat. C'est d'ailleurs le destin funeste réservé à Dolores la flèche silencieuse qui l'a transformé pour blesser son rival Gideon. Le but ultime de Seluvis est de réussir à transférer l'âme d'un demi-dieu dans un de ses pantins, et c'est pourquoi il a en réalité rejoint Rani. Si vous lui remettez un fragment de lumière des étoiles, objet unique trouvable au plateau Altus, il tentera de mettre son plan à exécution en créant une potion destinée à Rani, mais en vain puisque cela le conduira à la mort. Seluvis est assisté dans ses travaux par Pidia, un albinorique de première génération chargé d'entretenir les différentes marionnettes du sorcier. C'est d'ailleurs Seluvis et Pidia qui ont fourni à Selene la sorcière un corps lui permettant de transférer son âme à l'aide d'une lame de pierre d'éclat primordiale. En effet, si vous parlez à Selene après avoir rencontré le sorcier originel Azur, elle vous remettra cette pierre d'éclat renfermant son âme, et vous pourrez alors la ressusciter dans le laboratoire secret de Seluvis.
My apprentice. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again, and it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal glintstone.
Elle se rendra à l'académie de Raya Lucaria et un choix s'offrira alors à vous. L'assister dans son combat contre Jiren ou alors aider le chasseur de sorcières à se débarrasser de Selene. Si vous aidez Selene, elle prendra par la suite la place de Renala, mais pas pour longtemps, puisqu'elle finira transformée en amalgame, attestant que la vieille reine de la pleine lune en a encore sous le coude. Concernant Seluvis, une fois la quête de Rani terminée, vous le trouverez mort dans sa tour, sûrement tué par cette dernière ou alors par Blade dans un accès de folie. Pidia, de son côté, finira, ironie du sort, terrassée par ses propres créations. Tant de morts, tant d'assassinats dans ce récit, pour au final un seul but, une seule mission, permettre à Rani d'accomplir son destin, purger le monde de ses faces les plus sombres, de son histoire, et faire émerger, une bonne fois pour toutes, l'âge des étoiles.
The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Let us go together. My dear consort eternal.